Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de Radio Présence Lourdes-Pyrénées et de Radio Lapourdie Iratia. Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Caillé, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aussi avec Olivier Drapé, le délégué épiscopal à l'information et à la communication. Bonjour.
Bonjour.
Mgr Caillé, on pourrait intituler cette émission « Voyage, voyage ».
Tout à fait.
Puisque nous allons parler de deux voyages que vous avez effectués au mois de janvier, un au Québec, au Canada, et un autre au JMJ de Panama. Avec, vous n'étiez pas tout seul au JMJ de Panama. Et puis, on va parler aussi d'un voyage que vous allez réaliser ce mois de février en Afrique, au Togo, dans le diocèse de Kara. Je crois que vous avez eu quand même pas mal de déboires pour arriver au Panama via le Canada. Comment ça s'est passé un peu?
C'est
ça?
Tout à fait anecdotique. En tout cas, c'est vrai que j'ai groupé en un seul voyage, deux voyages, puisque j'étais invité à prêcher une retraite aux séminaristes du Québec, c'est-à-dire au séminaire diocésain de Québec, diocésain de Montréal, et le séminaire Redemptoris Mater du chemin neocatéchuménal de Québec. Donc ils étaient 37 séminaristes pour l'ensemble du Québec avec 8 formateurs. Et donc j'ai prêché cette retraite juste avant Panama, ce qui m'a permis d'être déjà en Amérique pour pouvoir rejoindre mes jeunes, les jeunes de mon diocèse, de notre diocèse, à Panama pour la deuxième semaine avec le Saint-Père.
Vous êtes même excusé de ne pas être en tenue réglementaire, je crois, à la première catéchèse.
Oui, parce que, en fait, j'ai eu quelques problèmes pour rejoindre Panama depuis Québec. Je devais passer par Newark et tout était bien ficelé. Il avait même fallu que je me déplace à Paris, à l'ambassade des États-Unis, pour obtenir un visa, sachant que la formule de l'ESTAM était interdite du fait que j'étais allé en Irak en 2014. Donc c'était un peu compliqué. Et en fait, je suis tombé dans une tempête de neige qui n'avait pas eu depuis plusieurs années, le dimanche qui a précédé mon départ. Et donc mon vol le lundi matin a été annulé. Donc on m'a reporté sur un vol à Montréal, toujours pour Newark et finalement pour Panama le mardi. Et quand je suis arrivé à Montréal, l'avion a été retardé de 4 heures. Donc j'avais plus la correspondance. Et donc ils m'ont reficelé un vol le mardi soir pour Lima et arriver dans la nuit et arriver au petit matin à Panama sans ma valise qui n'avait pas suivi mais qui m'a suivi quand même dans la journée.
Voilà. Donc vous n'étiez pas présent, Monseigneur, pour la cérémonie d'ouverture
Donc je n'étais pas là pour la cérémonie d'ouverture, je n'étais pas là aussi pour le temps fort des Français le mardi, qui était, paraît-il, très beau, dans l'église Saint-Jean-Bosco. Et j'avais donc décommandé ma catéchèse que je devais faire dans une autre paroisse que celle où étaient mes jeunes. Quand je suis descendu de l'avion, un peu fatigué après 26 heures d'aérogare et de transport aérien, j'ai retrouvé mes jeunes avec beaucoup de joie. Et puis ensuite, je suis allé dans la famille d'accueil où j'étais logé, comme les jeunes, dans cette paroisse. Et au bout d'une heure, ils m'ont rappelé en me disant que l'évêque qui devait faire la catéchèse n'était pas là. Donc il fallait que je fasse au pied levé la catéchèse pour ce groupe. Bon, bah, j'ai fait la catéchèse. Et c'est là que j'ai dit que je n'étais pas en tenue réglementaire parce que ma soutane était toujours dans ma valise qui n'était pas arrivée.
Alors ces JMJ de Panama, c'est assez peu courant que des JMJ tombent en hiver pour nous. Mais là-bas, c'était l'été.
En gros, le pape avait choisi d'abord un petit pays catholique, ne sachant que les pays d'Amérique centrale n'avaient pas été beaucoup visités encore par le pape, et que ces pays sont quand même souvent en grande souffrance, même si Panama est un pays un peu privilégié par rapport aux autres. Donc il avait choisi l'Amérique centrale, Panama, qui était capable sans doute d'accueillir un rassemblement d'envergure, et pendant l'hiver pour nous, mais qui est l'été en Amérique du Sud, et qui devait être les JMJ de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale. Or, il se trouve que finalement, ces JMJ ont été beaucoup moins fréquentés qu'elles ne le sont habituellement. D'abord parce que pour nous, c'est effectivement pas une époque très pratique. Le mois de janvier, on ne pouvait pas emmener de grands lycéens ni d'étudiants, mais on a emmené des jeunes pros, et ce qui d'ailleurs a donné une tonalité, une maturité peut-être plus grande à ces JMJ.
Ils étaient combien de notre diocèse?
Alors nous, on avait une petite vingtaine de jeunes hein, de notre diocèse, auxquels on peut raccrocher les JMJistes à la voile, puisque je parrainais cette grande aventure maritime, Cap sur Panama, qui avait commencé le 31 août, qui était un groupe de jeunes avec des skippers évidemment amarinés et tout à fait sérieux, qui voulaient faire un vrai pèlerinage jusqu'à Panama. Et pour participer au JMJ, il fallait qu'ils soient pris en charge par un diocèse. Donc c'est comme ça qu'ils ont été raccrochés à notre groupe. Et puis on était dans le groupe de la province de Bordeaux. On avait fait cause commune avec eux, qui était une petite vingtaine pour Bordeaux. Il y avait quand même presque 8 jeunes d'Agen. Et ça nous faisait donc un bon groupe. Sur place, hein, pour la première semaine dans le diocèse de Chitré, à laquelle j'ai évidemment pas participé, puisque moi j'étais au Québec, et puis la deuxième semaine à Panama.
Monseigneur Hayet, vous avez sans doute déjà participé au JMJ précédente, et finalement, vous rentrez assez marqué, très enthousiaste des JMJ de Panama, dont ici on a peu parlé parce que la couverture médiatique n'a peut-être pas été à la hauteur de l'événement, excepté dans quelques médias catholiques. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué précisément? Quelle est la particularité pour vous de ces JMJ de Panama par rapport à celles que vous avez pu vivre avant?
Alors plusieurs choses. Hein. D'abord, c'est vrai que, comme je le disais à l'instant, comme c'était des jeunes professionnels, on sentait une plus grande maturité, en tout cas du côté français. Hein. Moi, j'étais surtout avec des Français, des francophones. Une soif d'être enseigné, une soif de connaître leur foi, une soif de spiritualité, une appétence pour les sacrements d'Eucharistie et de réconciliation. Comme vous savez, depuis quelques JMJ, il y a des champs entiers qui sont remplis de confessionnaux, qui avaient d'ailleurs été confectionnés par les jeunes détenus de Panama cette fois-ci. Et avec des files de jeunes qui attendent pour se confesser, pour rencontrer un prêtre, rencontrer un évêque. Alors moi j'étais un peu plus disponible parce que je n'ai fait qu'une petite catéchèse finalement, une catéchèse dans la paroisse où j'étais, un peu par défaut. Mais j'étais avec eux et donc je confessais aussi autour des catéchèses et je voyais bien ces jeunes qui avaient besoin de parler, d'orienter leur vie, d'essayer d'accorder leur vie avec leur foi. Bon, donc c'est quand même très, très intéressant. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est que j'ai participé à beaucoup de JMJ. Comme évêque, c'est la quatrième journée mondiale de la jeunesse à laquelle je participe. Et ce que je remarque, c'est que ce petit pays, cette église très jeune, plus pauvre sans doute que l'église de Pologne ou que l'église d'Espagne, avait vraiment centré toutes les célébrations sur l'essentiel. Autant à Cracovie, il y avait une effervescence et un déploiement de moyens techniques, artistiques et autres qui pouvaient même distraire de l'essentiel. Mais à Panama, c'était très sobre. Des petites chorégraphies, belles d'ailleurs, qui donnaient un petit peu de vitalité à tout ça, de chant, de musique, mais très centré sur l'essentiel. Et d'ailleurs, j'étais très frappé de voir que le pape, à travers toutes ses interventions, depuis la première rencontre du jeudi soir, ensuite par le chemin de croix du vendredi, la veillée de prière du samedi, a eu un message extrêmement fort, très grave. D'ailleurs, il a dit lui-même dans le discours de la première rencontre, « Nous ne sommes pas là pour vous donner une église cool et divertissante. Vous êtes là pour aller de l'avant dans votre foi. » Il pourrait être des témoins de l'évangile dans le monde d'aujourd'hui. Et je crois que c'est le journaliste de la Croix, Nicolas Sénès, qui couvrait l'événement là-bas, qui a dit que le pape avait au fond donné comme des exercices spirituels à cette jeunesse. Et je crois que c'est très juste. Et oui, c'était empreint vraiment d'essentiel. Ça rappelait exactement ce que disait Saint Jean-Paul II, qui avait demandé, après les premières éditions des Journées mondiales de la jeunesse, que l'on ressente sur l'essentiel en disant « Les JMJ sont institués pour que les jeunes du monde entier puissent rencontrer le Christ et faire une expérience d'Église. » Et ça, c'est un des aspects qui me frappe toujours plus au fur et à mesure qu'on avance dans cette grande expérience des Journées mondiales de la jeunesse, c'est que les jeunes font une expérience de l'Église et ont l'occasion de manifester ou de grandir dans l'amour de l'Église. Il y a un petit fait que je cite là rapidement, qui m'a beaucoup touché. Quand le pape a rencontré les jeunes donc pour la première fois, le jeudi soir, il a rappelé que lorsqu'il avait annoncé à Cracovie que les JMJ auraient lieu à Panama, beaucoup lui avaient demandé « Est-ce que vous y serez ?» Et il avait répondu, et il l'a redit cette fois-ci, « J'avais répondu, je ne sais pas si j'y serai, mais ce qui est sûr, c'est que Pierre y sera. » Et bien Pierre est là. Et ça, j'ai trouvé que c'était très beau, parce qu'au fond, les jeunes, toutes les générations, il y a la génération Jean-Paul II, il y a la génération Benoît XVI, il y aura sans doute la génération François, mais ce n'est pas tant le pape en lui-même, dans sa personnalité propre, qui les attire, c'est la personne du pape, le successeur de Pierre, et donc c'est l'Église. Et ça, c'est magnifique.
Cet octogénaire que le pape, on peut dire qu'il s'est parlé aux jeunes.
Ah, parfaitement, ça c'est vrai, il a une vraie pédagogie. Chaque pape a sa manière, hein, et a son charisme. Et lui, de fait, il sait parler aux jeunes, il les interpelle, il leur fait répéter des choses, il leur pousse des questions, et c'est vrai que ça passe très bien.
Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, c'était le thème de ces JMJ.
Oui.
Et le pape a dit que la Vierge Marie a été la plus grande influenceuse du monde.
Oui, c'est ça.
Au monde.
Influenceuse de Dieu. Hein. Il dit il y a beaucoup de gens qui veulent être des influenceurs, mais vous voyez que Marie, elle était la femme qui a le plus influencé dans le monde, parce qu'elle a influencé Dieu. Et bien, vous pouvez aussi, vous comme Marie, avoir de l'influence dans le monde à partir de votre disponibilité à la mission.
On marque une pause, on va écouter l'hymne des JMJ de Panama et on retrouve Monseigneur Raillé juste après.
Radio Présence à Auch 89.6.
Nous retrouvons notre évêque Marc Caillé qui est bien présent à Bayonne, qui est revenu du Panama, de ses JMJ. Alors Monseigneur Caillé, comment s'est passé l'accueil dans les familles pananéennes? Comment vous avez été accueilli avec la délégation de notre diocèse?
Alors ça, c'est vrai que c'était une des choses qui ont marqué aussi ces JMJ, c'est qu'on a reçu un accueil magnifique. C'était déjà vrai, je crois, de la première semaine, quand ils sont partis dans le diocèse de Chitré, qui est un diocèse beaucoup plus pauvre, un peu plus retiré, dans un petit pays qui ne fait pas 4 millions d'habitants. Hein. À Panama, nous avons été accueillis par les familles dans les paroisses. Nous étions, nous, dans la paroisse Saint-Gérard. Et donc, c'était les familles qui recevaient des pèlerins, puisqu'on les appelait les peregrinos. Et pour ma part, j'étais reçu dans une famille, une femme vivant seule, parce que son mari, elle est séparée de son mari, avec deux filles, l'une qui rentre en faculté, l'autre qui est encore en secondaire. Et j'étais accueilli avec l'abbé Saint-Geoffrançus et deux jeunes filles du groupe. Ce qui fait qu'ils accueillaient quatre personnes, se mettant en quatre pour nous conduire ici ou là, nous apportant toute facilité. Enfin, c'est impressionnant. Ça a été diversement, d'ailleurs, on était, nous, reçus plutôt dans des classes moyennes, si je puis dire. D'autres groupes ont été reçus dans des classes plus, dans des familles plus défavorisées, dans des quartiers plus défavorisés, et ont même fait un petit peu d'expérience de la pauvreté de ces gens-là. Alors c'est un pays très contrasté. C'est un pays qui est un peu à l'américaine, envahi par les multinationales, peut-être la proximité du canal de Panama, hein, qui est quand même un lieu de passage obligé pour les grands cargos, hein, entre le Pacifique et l'Atlantique. Et donc, bah, c'est une ville qui est tapissée de buildings à la new-yorkaise, de 30, 40, 50, 60 étages, qui se s'alignent les uns à côté des autres sur cette côte du Pacifique. Et au milieu de tout ça, vous avez encore des favelas, vous voyez. Donc il y a un vrai contraste entre des opulences et de grandes précarités. C'est un pays qui est traversé par les narcotrafiquants qui traversent la forêt tropicale entre la Colombie et le Panama, qui n'a pas de voie de circulation d'ailleurs, hein, officielle, et qui remonte vers l'Amérique du Nord. C'est un pays où, évidemment, on blanchit beaucoup d'argent. D'ailleurs, tous ces buildings sont le fruit de blanchissement d'argent. Vous avez des tours entières ou qui sont occupées qu'aux deux tiers de leur capacité. Mais à côté de ça, une église très, très jeune et très belle, hein, qui apporte un beau message d'espérance dans ces pays d'Amérique centrale. Panama est au bout de cette petite lande de terre qui constitue l'Amérique centrale, à côté de pays qui sont en grande souffrance, le Nicaragua, le Salvador, puis pas loin dans l'Amérique du Sud, bah, il y a la Colombie, il y a le Venezuela, dont on a beaucoup entendu parler dans l'actualité. Et tout ça a été ramassé au cours du chemin de croix du vendredi, où chaque station était prise en charge par un de ces pays, d'Amérique centrale et d'Amérique latine, qui faisait part d'une des souffrances de ces pays. D'ailleurs, quand le Venezuela a été cité, la foule a applaudi, par exemple. Et chaque fois, il se référait à une image de la Vierge qui est vénérée précisément dans chacun de ces pays. Donc c'était à la fois très grave, c'était très souffrant. Et d'ailleurs, la méditation du pape qui a suivi était magnifique, où il a repris un peu toutes ses souffrances en disant que le chemin de croix de Jésus se prolongeait dans toutes les souffrances qu'il a énumérées, à commencer par le cri étouffé des enfants auxquels on refuse le droit de naître, etc., etc., car ça avait été aussi très présent dans ses témoignages, comme ça le sera encore le samedi soir. La veillée de prière était magnifique, je crois que c'est la plus belle à laquelle j'ai jamais participé, d'abord parce qu'elle était sobre, une belle chorégraphie sur le thème de l'arbre de vie, trois témoignages, dont une famille qui racontait comment ils avaient accueilli un enfant trisomique alors que le médecin leur demandait d'avorter, et le pape a repris ça longuement dans son message après. Cette ouverture à la vie, qui a aussi beaucoup marqué le Saint-Père, d'ailleurs il en a reparlé dans l'avion qui le ramenait à Rome, dans son interview, en disant ben voilà, quand je vois que l'Italie est descendue en dessous du seuil de reproduction de la natalité, et que ces pays-là, qui sont plutôt pauvres, mais qui disent oui à la vie. Donc ça a été aussi un thème qui m'a beaucoup marqué, moi, vous pensez bien. Mais il y a eu beaucoup d'autres thèmes aussi, hein. Il y a eu l'accueil des migrants, il y a eu beaucoup d'autres réalités qui sont les souffrances du monde d'aujourd'hui.
Pape a évoqué aussi, je crois, pas mal de fois, le sort des peuples indigènes,
voilà, autochtones. Oui. Qui avaient eu d'ailleurs, parce qu'ils avaient moins de moyens pour participer à des JMJ qui finalement pouvaient être coûteuses, en tout cas en transport aérien, c'est ce qui fait d'ailleurs que finalement les latino-américains ont été moins nombreux que prévu, alors que c'était pour eux qu'avaient été faits ces JMJ au mois de janvier à Panama. Et il y avait eu donc des rencontres avec les afro-américains et les peuples autochtones qui avaient précédé les journées mondiales de la jeunesse.
Alors, la délégation de notre diocèse a communiqué sur ce qu'elle vivait au Panama avec son site internet de la Pastorale des Jeunes, où on retrouve beaucoup de choses, et on voit dessus d'ailleurs.
Oui, c'est assez magnifique, parce que je crois qu'il y a eu un des rares diocèses, il y a eu un autre diocèse qui a dû faire pareil, ils ont fait la minute JMJ chaque jour par une petite vidéo, par WhatsApp. Et je crois que ça permettait aux diocésains de suivre sur la page Facebook ou sur le site de la pastorale des jeunes. Ça leur permettait de suivre un peu tout ce que nous faisions.
On peut retrouver des catéchèses que vous avez données, on peut retrouver des reportages dans les familles, où on les voit interviewer, bon, c'est en espagnol, hein, donc,
oui.
Et bon, voilà, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller faire un tour sur le site de la Pastorale des Jeunes, www.pastojeunes64.com. Bien sûr, aller à Panama, ça a été un coup aussi pour le diocèse.
Alors c'était un coup, c'est vrai, même si c'était quand même bien contenu, parce qu'on était avec la province de Bordeaux, on avait fait cause commune pour le transport, et c'était au niveau national même, ce qui fait que ça nous a quand même réduit le coût du transport. Mais comme d'habitude, on a demandé aux jeunes un tiers du coût, à la paroisse qui envoyait ces jeunes un tiers aussi, et puis le diocèse, grâce à une collecte que nous avons faite et que nous continuons maintenant, et donc j'appelle aussi les généreux donateurs à aider à couvrir évidemment les frais de cette belle aventure qui aura nécessairement des répercussions dans la pastorale des jeunes et en particulier donc dans l'engagement de ces jeunes dans notre diocèse.
Les prochaines JMJ auront lieu en Europe, au Portugal.
Voilà, oui, ça c'est magnifique. Ça a été annoncé donc à la fin de la messe d'envoi, hein, du dimanche. Et donc, les Portugais étaient évidemment en grande liesse. D'ailleurs, la statue de Notre-Dame de Fatima, celle de la chapelle des Apparitions, qui n'avait pas quitté Fatima depuis l'an 2000, était présente sur le grand podium de la messe d'envoi et de la veillée de prière. Et d'ailleurs, il y a eu une très belle image à la fin de la veillée de prière, qui était une vraie veillée de prière, avec des méditations sur tous les états de vie, devant le Saint-Sacrement exposé, avec des grands moments de silence, de tous ces jeunes qui sont vraiment à genoux, en silence, en prière, là. Il y a eu un moment où le pape, après la bénédiction eucharistique, est allé devant la statue de la Vierge, bon, pour une prière officielle qui était prévue, mais après, pendant 5 bonnes minutes, il est resté là en silence, en dialogue silencieux avec la Vierge. On voyait son visage tourné vers le visage de Notre-Dame de Fatima. Tout le monde était autour, en silence, personne n'osait bouger. Et c'était très, très beau. Vous voyez, j'ai pensé d'ailleurs à voir le pape devant le Saint-Sacrement, le pape devant la Vierge Marie. J'ai pensé aux trois blancheurs de Don Bosco, vous voyez, quand il voit dans un songe, juste avant la Première Guerre mondiale, l'Église comme un grand bateau, ballotté par les vents et les tempêtes, qui pourrait faire naufrage. Le pape est à la proue du navire, comme le capitaine, et puis ensuite, la barque est amarrée à deux grandes colonnes pour entrer dans le port du salut, hein, qui est la vie éternelle. Sur l'une d'entre elles, il y a un ostensoir, sur l'autre, il y a la Vierge Marie. Les trois blancheurs, comme dit Don Bosco, la blancheur de l'Eucharistie, la blancheur de l'Immaculée Conception, et la blancheur du pape, qui constitue finalement les piliers de notre foi catholique.
Je pense que vous allez mobiliser le diocèse pour ces JMJ du Portugal. Ce sera à Lisbonne donc en 2021.
Voilà, c'est tout proche de chez nous.
2022.
Donc dans 3 ans et demi, on va dire, puisqu'on est...
Vous y serez.
Bien sûr.
Et le pape,
si Dieu veut.
Est-ce que le pape y sera?
Pierre y sera. nous serons d'ailleurs peut-être non pas un diocèse d'accueil, parce qu'on serait peut-être un peu trop loin du Portugal, mais sans doute un diocèse d'étape. Et on peut proposer quelques petites choses pour ceux qui s'achemineront vers le Portugal.
Monseigneur Hayet, vous devez effectuer prochainement un voyage au Togo, à Kara, du 19 au 26 février. Et ce voyage, comme il est précisé dans votre agenda, est en vue du jumelage entre les deux diocèses de Bayonne-Lescaret-Oloron et de Kara. Mais notre diocèse a promulgué déjà, il y a 2 ans, je crois, la charte de jumelage. Alors, où en est-on de ce jumelage et quelle est la raison précise de votre visite à Kara?
Alors, ce voyage se situe en effet dans le cadre du jumelage que nous sommes en train d'établir, hein, entre les deux diocèses. Pour l'instant, on est dans la phase de sensibilisation de paroisse, de réalité de notre diocèse, à entrer en communication, en relation, de coopération, hein, missionnaire, je dirais, avec des réalités du diocèse de Kara. Déjà, il y a eu des actions de carême de telles paroisses qui ont été promues pour le diocèse de Kara. Bon. Parmi ces échanges, comme vous le savez, nous accueillons des prêtres. Actuellement, nous avons 2 prêtres de ce diocèse qui œuvrent chez nous. Et en contrepartie, nous avons envoyé un séminariste, encore une fois, cette année, en stage intercycle dans une paroisse du diocèse de Kara. Plus un jeune qui a après ses études de BTS agricole, a voulu faire une année de volontariat pour discerner, approfondir son choix de vie. Voilà, donc ça veut dire que je me rends dans le cadre de ce jumelage. L'an dernier, nous avons accueilli Monseigneur Jacques Longa, l'évêque de Carras. Cette année, j'y retourne non plus avec l'abbé Barnetsch, qui est le responsable de la mission universelle de l'Église dans notre diocèse, de la coopération missionnaire, comme on disait autrefois, mais avec une petite délégation de prêtres et laïcs. On sera peu nombreux, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être trop nombreux non plus dans ce genre de voyage, mais je prends avec moi le secrétaire général du conseil presbytéral, l'abbé Victor Gomez, donc ça donne un caractère aussi un peu institutionnel à cette rencontre, et puis deux laïcs, Nicole Boulet, qui est très engagée dans l'agglomération paloise, qui est la paroisse Notre-Dame-d'Espérance de Jurançon, parce que dans la communication pour ce qui est du doyenné de Pau périphérie, et puis Patrice de Condamine, qui est un paroissien de la paroisse de Navarinx, qui avait ébauché un certain nombre de relations avec le diocèse de Carras. Voilà, donc nous serons deux prêtres, un évêque, un prêtre, et deux laïcs, pour un homme et une femme, pour ce petit voyage qui a lieu en février aussi, parce que le diocèse de Carras célèbre cette année son jubilé d'argent de fondation, ses 25 ans de fondation, en 1994 donc, et donc a jalonné toute cette année une somme de temps fort, et ce sera en février, le 22 février, un temps fort avec les séminaristes et les prêtres à l'occasion de la fête de la chaire de Saint-Pierre.
Nous avons appris dans la revue diocésaine du mois de février qu'il y aurait une nouvelle maison diocésaine dans le diocèse. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ?
Voilà, alors c'est un projet que j'ai évoqué, d'abord que nous avons évoqué avec le conseil épiscopal et le conseil diocésain d'affaires économiques, qu'ensuite nous avons évoqué avec le collège des consulteurs, et lors de la dernière session du conseil prélatéral, on a pu donner un peu plus d'éléments pour que les prêtres comprennent bien, et donc ils le répercuteront auprès des fidèles, comprennent bien de quoi ils retournent, puisqu'on a commis un communiqué dans la dernière édition de la revue diocésaine, donc du mois de février. En fait, c'est une opportunité qui, pour nous, est peut-être interprétée comme un clin d'œil de l'Esprit Saint. Vous savez que depuis plusieurs années, les jésuites qui avaient cette belle résidence en plein centre-ville de Pau, depuis 150 ans quand même, hein, avec une chapelle magnifique dédiée à l'Immaculée Conception et extrêmement fréquentée par les fidèles du diocèse, en partie de Pau, pour la messe, les deux messes quotidiennes, et les confessions aussi, car il y avait une permanence de confession assurée par les jésuites, dans une maison qui a d'abord été un noviciat de jésuites, d'ailleurs il y a un bienheureux qui est passé par ce noviciat, ensuite qui a été une jésuitière dans le sens où c'était une résidence de jésuites qui avait des apostolats divers et variés, et enfin qui est devenue une maison de retraite et finalement un EHPAD. Les jésuites ne pouvant plus assumer le poids d'une telle maison, qui était bien aux normes hein, pour accueillir des prêtres dans une maison médicalisée, ont choisi un partenariat avec les Sœurs du Bon Pasteur à la maison de retraite Maria Consolata, qui ont promu une extension de leur maison pour accueillir les jésuites qui ont apporté les lits médicalisés, hein, l'autorisation des lits qu'ils avaient dans leur maison de Montpensier. Et ils cherchaient une communauté qui pourrait reprendre cette maison. Oui, dans quoi ils auraient vendu cette propriété de manière à ce que cette communauté puisse assurer une certaine pérennité religieuse et pastorale à ce lieu quand même tout à fait identifié, très significatif dans la vie spirituelle de notre ville de Pau. Finalement, ils n'ont pas trouvé de maison, de communauté, et le nouveau provincial, après la refonte de la province d'ailleurs de l'Europe francophone, de l'Ouest, donc France-Belgique essentiellement, vient me voir et me dit, moi je ne suis pas prêt à faire comme on l'a fait dans le passé, une opération immobilière, laisser ça à une promotion immobilière qui pourrait transformer la chapelle en un grand magasin, comme ça s'est fait à Nantes par exemple, il y a quelques années, mais puisqu'il n'y a pas de communauté à qui on aurait pu le vendre, c'est un bien d'Église, eh bien ça revient à l'Église, et nous on est prêt à le donner gracieusement à l'Église, et pour nous l'Église, c'est le diocèse de Bayonne. J'avoue que j'ai été très impressionné par cette audace prophétique. Et donc, on a fait affaire, on a réfléchi vite, parce que c'était quand même un don gracieux. Et donc, on a donc reçu ce don de la part des jésuites, qui nous ont demandé comme compensation de célébrer chaque mois une messe à l'intention des jésuites. Et donc, ben, on va constituer un comité de pilotage pour voir la viabilité économique et pastorale d'une maison diocésaine à Pau, à travers cet édifice, sachant que ça aura forcément des conséquences sur le CDB, le Centre diocésain du Béarn existant aujourd'hui, sur lequel d'ailleurs il y avait un projet de mise aux normes et de travaux assez conséquents, et aussi à terme sur la maison François-Henri, qui accueille encore nos prêtres âgés, sachant que l'ADGESA, qui est l'association de gestion de cette maison maintenant, va délocaliser sa résidence EHPAD.
Vous pensez que ce projet sera mis en œuvre dans beaucoup de temps?
Alors il faut un petit peu de temps, mais il faut quand même qu'on aille vite, parce qu'on ne peut pas laisser une maison comme ça sans utilisation et sans occupant. On va construire très vite le comité de pilotage, qui prendra contact avec un assistant maîtrise d'ouvrage pour nous donner des conseils, voir un petit peu ce qu'on peut faire, parce que je crois qu'il faut non seulement que ce soit le lieu où se perpétuent les activités pastorales des mouvements et des services qui, pour une part, se déroulaient au centre diocésain du Béarn, il faut aussi penser à la librairie catéchétique, et puis il faut peut-être penser aussi à une maison diocésaine qui peut faire de l'hébergement et de la restauration, comme à Bayonne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent à Pau, et puis il faut penser aussi à ces lieux intermédiaires, ces appartements, pour loger nos prêtres, qui quittent un ministère pastoral, qui ne sont pas du tout prêts à entrer en EHPAD et qui n'ont pas nécessairement de chez soi. Donc c'est aussi ça rejoint aussi une réflexion que nous portons avec le Conseil prévôtéral depuis déjà plusieurs mois.
Monseigneur Hayet, vous avez évoqué il y a quelques instants la visite il y a un an de Monseigneur Jacques Longa, l'évêque de Carras. C'est lui qui avait présidé l'an dernier, le 4 mars 2018, la messe de la Saint-Léon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la messe de la Saint-Léon, saint patron de Bayonne, du dimanche 3 mars?
Alors cette année, je n'ai pas invité d'évêque extérieur, donc c'est moi qui présiderai cette Saint-Léon. Pourquoi? Parce que nous allons profiter de cette belle fête de Bayonne, hein, donc de la ville épiscopale du diocèse aussi de Bayonne, l'Escarioleron. Donc on va profiter de cette fête pour admettre comme candidat au diaconat permanent quatre hommes qui, après un temps de prédiscernement et déjà trois années de formation au niveau de la province, là, eh bien, sont appelés à devenir diacre permanent de notre diocèse. Vous voyez, donc je crois que c'était un événement important à souligner après la relance de l'appel au diaconat permanent qui doit continuer à être d'ailleurs relayé. Et donc, eh bien, je suis content de pouvoir célébrer le rite d'admission comme candidat au diaconat permanent en ce jour de fête diocésaine à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, le dimanche 3 mars.
Le 6 mars prochain, ce sera le mercredi décembre, nous entrerons en carême. Qu'est-ce qui est prévu dans notre diocèse pour le carême? Et peut-être un mot sur l'appel décisif des catéchumènes le premier dimanche de carême?
Alors pour le carême, je pense on n'a pas besoin de prévoir grand-chose parce que la liturgie nous donne déjà abondamment d'orientation pour nous convertir hein, dans nos différentes communautés paroissiales ou religieuses. Mais c'est vrai que le carême, comme dans tous les diocèses, sera aussi l'étape finale du catéchuménat des adultes, avant les sacramentations chrétiennes dans la vigile pascale, normalement. Et donc, on va déjà commencer par le dimanche 10 février, par une première récollection avec les catéchumènes, qui vont être présentés à l'appel décisif le dimanche 10 mars, donc le premier dimanche de carême, en l'église d'Orthès.
Ils seront combien cette année, vous le savez?
Alors, je ne sais pas encore combien ils sont, hein, parce que je n'ai pas encore toute la liste définitive, mais je le saurai, évidemment, dimanche prochain, le 10 février, qui sera aussi d'ailleurs la journée mondiale du malade. Hein. Nous aurons, nous, cette récollection avec ces catéchumènes qui seront baptisés cette année.
Notre temps fort, ce sera la rencontre avec les confirmants Avec les cinquièmes.
Ah, c'est ça. Là, il y aura la journée des cinquièmes, dans, qui devient une chose tout à fait habituelle dans la vie du diocèse. Et puis, il y aura certainement aussi les 24 heures pour le Seigneur, que le pape avait beaucoup invité à célébrer dans nos diocèses pendant le carême, juste avant le quatrième dimanche de carême. Voilà. Voilà. Bon, vous voyez, il y a un tas d'initiatives comme celle-là qui vont évidemment se mettre en place au fur et à mesure. Mais cette année, on ne se précipite pas dans le carême parce que, comme vous savez, Pâques est beaucoup plus tard que l'an dernier. Donc, on n'entre pas dans le carême aussi vite que d'habitude. Donc, ça nous laisse un peu le temps de souffler.
Merci, Mgr Rayet, et merci, Olivier Drapé, et merci à tous les auditeurs pour votre écoute. Merci.